me souviens de vous et d'autrefois, des fils barbelés, des prisonniers du pays aux horreurs, où l'on brûla vos frères et vos sœurs. Parfois vos crimes hantent et j'ai mal, me rappelant l'infernal.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester.
Le pasteur allemand, Martin Niemöller, a survécu au camp de concentration nazi. Ce sermon, il l'a prononcé devant une communauté protestante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Charles Zelti avait 15 ans lorsqu'il a rejoint un groupe de résistants communistes juifs en août 1942 à Lyon. Arrêté le 7 mars 1944, après avoir transité par Drancy, il arrive avec le convoi numéro 70 à Auschwitz.
Il sera libéré à Bergen-Belsen en avril 1945. Il n'a cessé depuis de témoigner pour expliquer comment ce cauchemar collectif a été rendu possible et ce qu'il a été. Quand il reprend les mots du pasteur Niemöller, c'est bien pour pousser à la vigilance permanente, pour crier, plus jamais ça. Mais le cri ne suffit pas, il faut expliquer, faire comprendre.
C'est ce qu'il a fait avec nous à Auschwitz, par une belle et douce journée de printemps, d'un bleu limpide, où entre ses commentaires, ceux d'Alban Perrin venu du mémorial de la Shoah, ceux de Teresa, notre guide polonaise, il n'y avait place que pour de lourds silences, perturbés par le léger gazouillis des oiseaux. Et pourtant...
Ich weiß genau, dass es mir allein nicht gelungen wäre, wenn damals in Polen etwa eine Demokratie westlicher Verfassung.
Dans les années 20, en Allemagne, un tout petit parti, le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands, autrement dit le Parti Nazi, s'agite en défendant des thèses nationalistes. Goût de l'uniforme, de l'ordre paramilitaire, haine de tous ceux qui sont accusés d'avoir causé l'humiliation de l'Allemagne en 18, de tous ceux qui sont jugés responsables de la crise économique qui met les travailleurs allemands au chômage et dans la misère. Haine des démocrates et de tous ceux qui vont être désignés comme les responsables suprêmes des malheurs des Allemands, avec, en tête, les juifs, les communistes et plus généralement tous ceux qui porteraient atteinte à la race aryenne, cette prétendue race supérieure. Haine de tous ceux qui s'opposent au fascisme, de tous ceux qui raisonnent en termes de paix et non de violence.
Dans Mein Kampf, qu'Adolf Hitler rédige alors en prison, tout a annoncé. L'antisémitisme et le racisme sont ouvertement énoncés. La Grande Allemagne, l'espèce vitale aussi. La politique que veut mener Hitler aussi. La guerre inévitable aussi. Une politique barbare également.
Et pourtant, en 1933, les nazis accèdent au pouvoir par les urnes. Hitler prend les pleins pouvoirs et dès 1935, les lois de Nuremberg vont frapper les juifs. Interdiction d'un banc, interdiction d'une fonction, brutalité dans la rue, arrestation arbitraire, première déportation, la violence monte. Elle conduira au pire génocide organisé que l'humanité n'ait jamais connu.
Le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes. Après la destruction de leur temple à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les juifs se sont éparpillés. C'est la diaspora. Leurs migrations furent toujours pacifiques. Ils n'ont pas conquis de territoire. L'anti-judaïsme est d'abord religieux. Les chrétiens rendaient les juifs responsables de la mort du Christ. Là où ils se trouvaient, on les rendait responsables de toutes les catastrophes. Peste noire, famine, épidémie, crise économique.
À chaque vague de violence, les communautés se déplaçaient vers des contrées plus accueillantes ou tolérantes. Beaucoup se retrouvèrent en Pologne ou dans les pays baltes, par exemple développant une culture propre et une langue, le yiddish. Au XIXe siècle, des scientifiques prétendirent établir la conception de race pour définir des groupes ethniques. Ainsi les Juifs ont-ils été catégorisés. C'est à ce moment qu'une vague d'antisémitisme couvre l'Europe, se traduisant par exemple en France par l'affaire Dreyfus. Le nazisme va encore plus loin. La force, le sang, la pureté de la race viennent remplacer le bien et le mal, la vertu et l'humanisme.
Les Juifs ont été les premières victimes. Dans les discours nazis, les judéo-bolchevismes étaient dénoncés comme l'ennemi. Les races sous-hommes devaient être éliminées et autour de l'espace vital allemand, des pays satellites seraient exploités par des races inférieures réduites en esclavage pour fournir des denrées et des richesses aux Allemands.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, et tenaient qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Le mot génocide est apparu après la guerre pour désigner tout massacre de peuple par quelque moyen que ce soit. En ce sens, pourrait-on parler du génocide commis par les Européens contre les Amérindiens? Il est inchiffrable. Au Cambodge, les Khmers rouges commettent un génocide, même si le mot n'est pas retenu officiellement par l'ONU, un génocide politique contre leur propre peuple. Autour de 2 millions de victimes dans les années 70. Au Rwanda, les massacres ethniques entre les Hutus et les Tutsis sont une autre forme de génocide. 800 000 victimes en 1994 selon l'ONU. La Shoah ou Holocauste sont des termes appliqués spécifiquement pour évoquer l'assassinat programmé et méthodiquement organisé par les nazis contre les juifs, plus de 6 millions de victimes.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Les chiffres font frémir. Dans les camps de la mort, 10 millions de personnes sont déportées, 8 millions d'entre elles y sont tuées, parmi elles, 6 millions de juifs. À Auschwitz, plus de 1 200 000 victimes. En France, en 1940, il y avait 320 000 juifs, dont 70 000 enfants. Sur 76 000 juifs déportés de France, seulement 2 500 sont revenus. Sur les 11 600 enfants qui ont été déportés, 2 000 avaient moins de 6 ans. 42 000 juifs ont été déportés en 43 convois vers Auschwitz, rien que sur l'année 42. 3 000 juifs sont morts aussi dans les camps, en France. En Pologne, plus de 3 millions de victimes. C'est le pays le plus touché. Teresa nous en témoigne sur le site d'Auschwitz-Birkenau.
Il y avait des villes et des villages polonais où la moitié des habitants, c'était les juifs. Et c'était le cas de notre ville. Sur 12 000 habitants, 8 000, c'était les juifs. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans notre ville, il n'y a aucun juif.
Alban Perrin éclaire les conditions de la planification de l'industrie de mort nazie.
Lorsque les nazis ont envahi la Pologne, ils ont commencé par enfermer la population juive dans des ghettos. Ça s'est étalé entre la fin de l'année 1939 et le milieu de l'année 1941. Lorsqu'ils ont envahi l'Union soviétique, ils ont commencé à liquider la population juive, village par village, lors de tueries par balles qui avaient lieu, qui étaient commises par les Einsatzgruppen, les groupes d'intervention. Lorsqu'à la fin de l'année 1941 est prise la décision de l'extermination systématique de l'ensemble de la population juive d'Europe, sont d'abord mis en place sur le territoire du gouvernement général, sur le territoire de la Pologne occupée, 3 centres de mise à mort, à Treblinka, Sobibor et Belzec, qui sont uniquement des terminus ferroviaires avec des chambres à gaz alimentées par des moteurs diesel et des fosses. Mais à Treblinka, Sobibor et Belzec, il n'y a pas de four crématoire. Les corps sont d'abord ensevelis dans d'immenses fosses communes, puis les opérations de gazage sont stoppées, les fosses sont vidées, les corps sont brûlés sur des bûchers en plein air par un commando juif qui ensuite est à son tour liquidé. Ici à Birkenau, on est à la fois sur le lieu où le plus de juifs ont été tués au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur les lieux où cette extermination a atteint son degré technique le plus élevé, avec la mise en place de ces bâtiments, les crématoires 2, 3, 4 et 5, qui étaient conçus donc autour d'une division des tâches de type industriel, avec donc une salle vestiaire, une salle des chambres à gaz et des fours crématoires. Les nazis évaluent la capacité d'incinération des corps dans ces installations par tranche de 24 heures à 1440, tandis qu'ils évaluent la capacité d'incinération des corps au crématoire 4 et 5 à 768.
Les arrestations et la déportation conduisent aux camps de concentration et aux camps d'extermination. Jacques Chénier, historien sartois, spécialiste de cette période.
La différence entre un camp de concentration et camp d'extermination repose déjà dans le vocabulaire. Un camp de concentration, c'est un camp où l'on concentre les gens, mais avec dans le cadre de la philosophie nazie. C'est-à-dire que on va mettre dans ces camps des gens qui sont d'abord des opposants à la doctrine nazie et donc à Hitler, des opposants politiques comme les socialistes, comme les communistes, mais aussi des opposants, disons, nationalistes ou nationaux plus exactement, comme le seront les résistants. Dans un camp de concentration, à partir de 1942, la main-d'œuvre devient une main-d'œuvre utilisable dans l'industrie et le camp de concentration devient un centre de ressources pour les entreprises allemandes qui vont pouvoir utiliser ces gens-là dans le cadre de l'économie de guerre, de la guerre totale. Ça, c'est le camp de concentration. Normalement, quand on entrait dans un camp de concentration, on avait en principe, j'insiste beaucoup sur le mot en principe, l'espoir de pouvoir revenir vivant. Dans des conditions terribles, mais l'espoir existait. Dans un camp d'extermination, il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire que les gens qui entrent dans le camp d'extermination sont des gens qui sont destinés à la mort immédiate. Et par conséquent, ce camp possède toutes les structures nécessaires à cette mise à mort immédiate, et en particulier la chambre à gaz homicide, ce qui n'est pas le cas obligatoirement du camp de concentration. Tous les camps de concentration n'ont pas de chambre à gaz homicide. Tous les camps d'extermination en ont une.
Les conditions de survie pour les détenus étaient terribles dans tous les camps. Mais les nazis avaient-ils volontairement hiérarchisé ces camps, ou étaient-ils tous semblables ?
Alors pour les camps de concentration, il y avait un classement de trois niveaux, selon le degré, je dirais, de terrorisation des détenus. Vous savez que d'abord le terme des gens qui sont en camp de concentration, c'est « Häftling », c'est-à-dire « détenu ». Et par conséquent, dans certains camps de concentration, en théorie toujours, eh bien, les conditions de vie étaient plus ou moins difficiles, ce qui est très relatif, hein. Il faut bien s'entendre là-dessus, parce que la terreur est permanente, quel que soit le camp de concentration. Mais dans certains camps, vos chances de revenir étaient plus grandes que dans certains autres. Le camp de Mauthausen, vos chances étaient extrêmement réduites, parce que les conditions de vie étaient absolument terribles. Par contre, un camp comme Buchenwald, manifestement, vos chances étaient beaucoup plus grandes. Et certains déportés, d'ailleurs, le disent fort bien. Moi, j'ai Paul Secrétin qui a été déporté à Buchenwald, qui a dit, mais moi, dans le camp où j'étais, dans le commando où j'étais, bon, ça c'est quand même par rapport à d'autres. Tout est relatif, hein, il faut bien s'entendre là-dessus. Ça a été moins terrible que si j'avais été dans un commando de Mauthausen à Ebensee ou à Gusen, par exemple. Alors, il y a cela. Sachsenhausen a été moins terrible que ne l'a été Neuengamme. Là encore, c'est très relatif dans la mesure où l'espérance de vie dans ces camps est quand même très faible. Vous savez que l'espérance de vie dans un camp de concentration, moyennement, était de 3 mois maximum. Donc, ce qui veut dire que quel que soit le niveau du camp, votre espérance de vie, ben, elle pouvait osciller de 1 mois à 4 ou 5 mois. Mais c'est à ce niveau-là que ça jouait. Mais de toute façon, le SS, qu'il soit de Mauthausen, d'Orianenburg ou de Buchenwald, reste un SS. Et par conséquent, les risques de mortalité étaient très élevés.
En 1942, les nazis décident de la solution finale.
Le 20 janvier, en 1942, à Wannsee, c'est un quartier de Berlin, les nazis ont signé le document qui est connu aujourd'hui comme la solution finale de la question juive. Mais il s'agissait du programme de l'extermination massive des juifs. Et après la conférence à Wannsee, donc au début de l'année 1942, les transports avec les juifs ont commencé à arriver ici et le camp d'Auschwitz a commencé à remplir cette deuxième fonction du camp d'extermination. C'est-à-dire les juifs, après l'arrivée dans le camp, après la sélection, étaient conduits directement dans les chambres à gaz. Et pour réaliser ce programme de l'extermination des juifs, ici, au camp de Birkenau, les nazis ont construit 4 grands crématoires avec les chambres à gaz.
Cette politique nazie a aussi des objectifs économiques.
Les nazis étaient des criminels ordinaires, au sens ils ne se sont pas contentés d'assassiner leurs victimes, mais avant cela, ils ont systématiquement dépouillé de leurs biens. Vous savez que dans l'Allemagne des années 30, sous la houlette de Göring, une politique d'aryanisation systématique est mise en œuvre. Cette politique d'aryanisation, c'est-à-dire de vol des biens et des entreprises qui pouvaient appartenir à des juifs, est mise en œuvre après l'invasion de la France, donc à partir de 1940-41, elle va aboutir à ce que les juifs soient privés de leurs moyens de subsistance. Si bien que, et en raison aussi des interdictions professionnelles qui frappent les juifs, aux archives du Maine-et-Loire, il y a un document qui concerne les juifs arrêtés à Cholet en 1942, où on voit que la plupart d'entre eux sont sans profession. Pourquoi ? Eh bien parce que ou bien ils n'avaient pas le droit d'exercer les professions qu'ils exerçaient jusque-là, ou bien parce que leur bien, leur entreprise leur avait été prise. Donc c'était aussi une façon pour les nazis de briser toute possibilité de résistance des juifs, dans la mesure où ils étaient privés de leurs moyens d'existence. Cette spoliation qui avait lieu avant la déportation, elle se poursuivait à l'arrivée à Auschwitz par le vol des bagages qui devaient être abandonnés par les juifs à leur arrivée. Et ce vol, cette exploitation économique des victimes, se poursuivait jusqu'à l'exploitation économique des cadavres, avec la tonte des cheveux des femmes gazées qui étaient emballées et revendues à l'industrie textile, et l'arrachage des bijoux et des dents en or qui étaient fondus en lingots, lingots qui étaient envoyés à la Reichsbank. Il n'y avait pas de budget pour la solution finale. La solution finale ne devait pas coûter un centime au Reich. Il fallait donc que les victimes financent elles-mêmes leur propre assassinat. D'où le vol systématique de leurs biens avant leur déportation, à l'arrivée au camp et après leur assassinat.
Noch schwarzer wie die Erd ist unser Himmel und grausam ist das Warten auf den Sof. Vor mir ist schön die Welt, wie ich a Scherben bläus und jeder Ort im Mais ist a Geschenk. Vor dir, mein Kind, die Welt, sie ist noch schön und grös. Du torst nicht gehen, wie ich dem letzten Gang.
Notre équipe de lycéens de Ciel-Guillaume connaissait cette image et cette devise incroyable sur le porche d'entrée d'Auschwitz. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Nous allons entrer dans le camp et dans son histoire dramatique.
Avant la guerre, il y avait ici une vieille caserne militaire de l'armée polonaise. Et pour la nazie, c'était une base. Ils pouvaient loger les premiers détenus dans ces bâtiments. Auschwitz, en tant que ville, constituait un très bon nœud ferroviaire. Donc les nazis pouvaient facilement transporter d'abord les prisonniers de toute la Pologne, ensuite de toute l'Europe. À l'époque, ce terrain était éloigné du centre-ville, donc les autorités du camp pouvaient cacher, camoufler tout ce qui se passait dedans. Le premier commandant du camp, Rudolf Höss, a été nommé au mois de mai en 1940, et le premier transport, mais d'abord avec les prisonniers polonais, est arrivé ici le 14 juin 1940. Et cette date, le 14 juin 1940, c'était le début du fonctionnement du camp d'Auschwitz. Au départ, mais seulement au départ, le camp d'Auschwitz, était prévu pour les Polonais. Ça a changé au cours de la guerre. Aujourd'hui, le camp d'Auschwitz est le symbole de l'extermination massive des Juifs, de l'Holocauste des Juifs. Et chaque transport qui arrivait dans ce camp devait passer par cette porte d'entrée avec la fameuse inscription « Arbeit macht frei ». Je ne sais pas si vous connaissez l'allemand. Même si on ne connaît pas l'allemand, cette phrase est très connue, n'est-ce pas ? « Le travail rend libre ». Mais aujourd'hui, nous disons que c'était vraiment une inscription très cynique, très ironique. Le travail dans le camp menait à la mort, jamais à la liberté. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'extermination des Juifs, nous pensons tout de suite aux chambres à gaz. Mais il faut dire que dans le camp, le travail, la malnutrition, les maladies, c'est aussi des moyens d'extermination. Je pense que tous les nouveaux arrivants, quand ils restaient debout devant la porte d'entrée, en lisant cette inscription, pouvaient avoir quelques espoirs. Si je travaille bien, si je remplis mes devoirs, je serai libre. Mais ce n'était pas vrai. Le travail menait ici à la mort, jamais à la liberté.
Le camp de Birkenau, sa construction commence en octobre 1941. L'ordre au départ d'Heinrich Himmler était de construire à proximité d'Auschwitz un deuxième camp, plus grand, plus vaste, qui serait destiné initialement aux prisonniers de guerre soviétiques. Lorsque les prisonniers de guerre soviétiques sont envoyés à Auschwitz en octobre 1941, ils sont logés dans 9 baraquements isolés du camp principal et ils sont envoyés quotidiennement sur le chantier de construction du camp de Birkenau. À l'emplacement du camp se trouvait un village, le village de Bjejinka, dont le nom a été germanisé en Birkenau. Mais en fait, c'est la même racine. Bjoza en polonais, c'est le boulot. Même chose pour Birken en allemand. Mars 1942, premier convoi de déportés juifs qui arrive donc sur cette rampe. Arrivent d'abord des convois de Pologne, de juifs polonais, des convois, un convoi de femmes slovaques le 26 mars 1942. Et le premier convoi qui arrive d'un pays d'Europe occidentale, c'est un convoi de France. Convoi qui part de Drancy via Compiègne le 27 mars 1942 avec dedans 1112 hommes juifs, français et étrangers qui sont enregistrés à Auschwitz 1 puis envoyés à Birkenau qui n'est encore qu'un vaste chantier. Les convois d'Europe occidentale et d'Europe balkanique arrivent sur cette rampe donc à partir du printemps 1942. Sur cette rampe, les nazis procèdent à une sélection, c'est-à-dire un tri sommaire entre les déportés qui vont partir immédiatement vers les chambres à gaz, qui constituent la majeure partie des déportés de chaque convoi, et une petite partie qui va être sélectionnée pour le travail et qui va rentrer dans le camp et donc connaître l'univers concentrationnaire. Mais la plupart des juifs qui arrivent à Auschwitz ne connaissent jamais, ne rentrent jamais dans le camp, ne sont ni enregistrés ni tatoués, ne pénètrent jamais dans le monde concentrationnaire. En 1942, de cette rampe, ils sont envoyés en camion vers deux chambres à gaz provisoires, le bunker 1 qui était situé à cet emplacement-là et le bunker 2 qui était situé tout à fait dans le fond du camp. Ce sont deux fermes polonaises, deux maisons qui ont été transformées en chambres à gaz provisoires. Lorsque Himmler vient en juillet 1942 et qu'il assiste au gazage, à la sélection sur la rampe, à l'envoi au bunker 2, au gazage du premier convoi qui arrive des Pays-Bas, il ordonne que le camp soit agrandi et que des crématoires soient construits. Ces crématoires, ce sont des installations qui n'ont aucun équivalent historique et qui comprennent à la fois des salles de déshabillage, des lieux de mise à mort, les chambres à gaz proprement dites, et des lieux d'incinération. C'est des structures intégrées, des structures industrielles d'assassinat. Et ces deux chambres à gaz provisoires sont alors abandonnées. À l'origine, à côté de ces premières chambres à gaz, il n'y avait pas de four crématoire. Ça veut dire que les corps étaient ensevelis, étaient entassés dans de grandes fosses communes qui étaient creusées derrière ces chambres à gaz provisoires. Lorsque Himmler arrive en 1942 et qu'il assiste à la liquidation d'un convoi, il ordonne que ces corps soient exhumés et brûlés sur des bûchers à ciel ouvert. Et d'après le témoignage du commandant du camp, qui s'appelait Rudolf Heuss, ce sont près de 107 000 cadavres qui auraient été ainsi exhumés à l'automne 1942. Lorsque ce travail est terminé, les hommes du Sonderkommando, donc ce commando spécial de juifs qui était chargé de vider les chambres à gaz, est envoyé sous forte escorte à Auschwitz 1, gazé dans la morgue du crématoire 1, et un nouveau Sonderkommando est constitué.
À Auschwitz-Birkenau, la sélection s'opérait dès l'arrivée sur la Judenrampe. Les rails sont là. Derrière nous, une porte dans une immense façade de briques rouges avec sa tourelle centrale. Ici, les images de ces sélections arbitraires, les cris qu'on peut imaginer, les déchirantes séparations, l'avancée vers un avenir dont on ne sait pas encore ce qu'il sera, mais dont on a tout à redouter. Et deux fils, l'alternative entre la mort immédiate et la mort lente.
On faisait deux colonnes, on séparait les femmes et les enfants des hommes, mais on séparait les familles. Les femmes pleuraient, les enfants criaient. Je pense qu'il n'y a pas de mots aujourd'hui, n'est-ce pas, pour décrire ce qui s'est passé sur le quai. Le membre du Commando Canada s'occupait des bagages des Juifs, mais ils aidaient aussi les nouveaux arrivants à la descente et à la préparation à la sélection. C'est-à-dire, ils disaient aux nouveaux arrivants comment ils devaient se comporter sur le quai. Mais comme ils connaissaient déjà la réalité du camp, souvent ils essayaient d'aider, même de sauver les nouveaux arrivants. Je ne sais pas si le nom Elie Wiesel vous dit quelque chose. Il raconte ainsi son arrivée dans le camp. Quand il est descendu du train avec sa mère, sa sœur et son père, bien sûr la mère et la sœur ont été séparées de lui. Il est resté avec son père. Un prisonnier du Commando Canada s'est approché de lui et il lui a posé la question. « Tu as quel âge ?» Elie Wiesel a répondu « J'ai 15 ans. »« Non, tu dois dire que tu as 18 ans. » Mais Elie Wiesel ne comprenait pas, donc il insistait. Mais non, je n'ai pas 18 ans, j'ai seulement 15 ans. Mais ce prisonnier lui a dit, si tu veux vivre, tu dois dire que tu as 18 ans. Pourquoi ce membre du commando Canada l'a dit? Il savait que tous les enfants juifs, surtout qui avaient moins de 15, de 14 ans, étaient dirigés directement dans la chambre à gaz. Et il a posé la même question au père d'Elie Wiesel. Et toi, tu as quel âge? 50 ans. Non, tu dois dire que tu as 40 ans. Parce qu'il savait qu'un homme qui avait une quarantaine était plus utile pour le camp que celui qui avait une cinquantaine. Donc ainsi, à leur façon, les prisonniers du camp essayaient parfois même de sauver les nouveaux arrivants. Je dois dire que la sélection se déroulait très vite. Les nazis n'avaient pas le temps de fouiller les documents, de vérifier tout ça. Et souvent, les nouveaux arrivants, en trichant, mais pouvaient se sauver. Au camp, il n'y avait pas de règles. Tous les jeunes juifs costauds étaient dirigés dans le camp. Les personnes âgées, malades, n'est-ce pas, étaient dirigées dans les chambres à gaz. Et souvent, les jeunes juifs costauds, valides, qui pouvaient travailler, étaient dirigés dans les chambres à gaz. Et les personnes plus âgées restaient sur le quai. Pendant quelques années successives, une juive française qui s'appelait Denise Holstein venait ici. Elle racontait son histoire. Elle a été arrêtée avec sa famille et d'autres familles juives dans les Yvelines. Mais les parents ont été déportés au camp de Birkenau plus tôt. Elle est restée dans une sorte d'orphelinat avec d'autres enfants juifs. Mais finalement, en été 44, elle aussi, elle a été déportée ici. Elle est descendue du train, bien sûr entourée par les enfants. Elle était la plus âgée. Si je me rappelle bien, elle avait 17 ans. Elle s'occupait de ses enfants juifs, je ne sais pas, comme une éducatrice. Donc elle est descendue du train et à ce moment-là, un prisonnier du commando Canada s'est approché d'elle et lui a dit « Écoute, si tu veux vivre, tu dois quitter les enfants. Tu ne peux pas rester avec eux. » Mais un des enfants a commencé à pleurer. Donc Denise s'est approchée de lui pour le consoler, pour l'embrasser. Mais ce prisonnier du camp s'est approché d'elle encore une fois et lui a dit « Tu ne comprends pas ce que je te dis. Si tu veux vivre, tu dois quitter les enfants. » Souvent, pour que les enfants soient sages, ne pleurent pas, étaient accompagnés de leur mère ou bien de personnes adultes. Et Denise l'a écoutée. Elle était jeune, valide. Après la sélection, on l'a dirigée dans le camp. Et elle a survécu, la seule. Tous les enfants juifs avec qui elle était venue dans le camp ont trouvé la mort dans la chambre à gaz. Denise Holstein a gardé le silence pendant 40 ans. Elle ne voulait pas en parler, s'apaiser, n'est-ce pas? Elle se réprochait d'avoir quitté ses enfants. Nous savons très bien qu'elle ne pouvait absolument rien faire. Elle ne pouvait pas aider les enfants, mais elle se réprochait. Et je raconte l'histoire pour vous montrer que souvent, dans le camp, les prisonniers étaient obligés de prendre les décisions, malgré leur volonté, contre eux, mais ces décisions pesaient sur toute leur vie.
Ceux qui avaient survécu à la sélection de l'arrivée, ils pouvaient tout de même à tout moment être envoyés vers les chambres à gaz, même quand ils pensaient aller vers des soins.
Le camp a été organisée comme une petite ville. Il y avait tout, même l'hôpital du camp. Je pense que l'hôpital, c'est trop dit, peut-être une infirmerie. Mais il y avait beaucoup de baraques, c'était les mêmes baraques, équipées de la même façon, avec des lits en bois superposés à trois niveaux. À vrai dire, ce secteur ne différait rien d'autres secteurs. Mais ça, c'est vrai qu'au début, les prisonniers du camp attendaient les soins médicaux. Souvent, le soir, ils venaient ici, ils faisaient la queue, ils voulaient être soignés. Mais très vite, ils ont compris que l'hôpital du camp, c'est l'antichambre de la chambre à gaz. Parce que tous ceux qui restaient pendant quelques jours dans l'hôpital du camp, n'est-ce pas, étaient tout de suite jugés inaptes au travail. Ainsi, ils étaient inutiles pour le camp. Être inutile pour le camp, c'était la mort. Plus tard, les prisonniers à tout prix évitaient de se trouver dans l'hôpital du camp. Il faut dire que les nazis procédaient aux sélections régulières, même dans les baraques, dans les secteurs, dans l'hôpital du camp. Ils procédaient aux sélections des prisonniers quand ils revenaient le soir dans le camp, après une longue journée de travail, fatigués. Par exemple, les femmes devaient encore courir une certaine distance. Celles qui tombaient de fatigue, qui ne pouvaient plus continuer, étaient isolées du reste et conduites dans la chambre à gaz.
Tous les biens des déportés étaient récupérés et stockés dans le baraquement appelé Canada. L'horreur apparaît avec violence face aux montagnes de petites chaussures d'enfants, de valises, de vaisselle, de lunettes, de prothèses, de cheveux. Tuer, prendre tout et recycler, même l'impensable.
Ça arrivait que dans le transport, avec les juifs, il y avait des juives enceintes. Mais par exemple, c'était le début de la grossesse, elles n'étaient pas bien visibles. Comme elles étaient jeunes valides, souvent, elles étaient dirigées dans le camp pour travailler. Au bout de quelques mois, elles accouchaient. Chaque nouveau-né juif était tout de suite tué, et le plus souvent, sa mère aussi. Tous les handicapés, après la sélection, étaient dirigés dans la chambre à gaz. Mais leurs béquilles, leurs corsets, leurs prothèses étaient souvent envoyés dans des hôpitaux allemands pour les soldats allemands blessés sur le front. Ici, il y a des accessoires de cuisine. On me pose souvent cette question, est-ce que les juifs s'attendaient à la mort? Est-ce que les juifs savaient ce qu'ils attendraient au moment de l'arrivée dans le camp? Vous savez, je ne sais pas si j'ai raison, mais il me semble que tous ces objets ici prouvent que non. Il me semble qu'une femme qui pense vivre ailleurs avec sa famille, qui espère préparer normalement le repas pour sa famille, emporte des objets comme ça quand elle se prépare au voyage.
Les douches n'étaient pas des douches. Nous le savons. Mais les victimes qui arrivaient dans les camps, après parfois plusieurs jours de transport dans des conditions abominables, ne pouvaient pas imaginer ce qui les attendait. Elles ne pouvaient pas imaginer que leur vie se terminerait par une exécution collective, chimique, froidement et méthodiquement appliquée.
Dans les grands crématoires, et notamment dans les crématoires où les chambres à gaz étaient souterraines, les crématoires 2 et 3, le gaz était introduit par des trappes dans le toit, fermées par des ouvertures dans le toit fermées par des trappes en béton, qui correspondaient à une colonne grillagée, à l'intérieur de laquelle se trouvait un axe rotatif creux, et les granulés de silice tombaient dans ces colonnes grillagées à travers cet axe rotatif creux. À l'issue de l'opération de gazage, ces colonnes étaient retirées et mises sur le toit à l'air libre. Dans les chambres à gaz, les nazis avaient aussi mis en place des systèmes de ventilation mécanique pour évacuer le gaz.
Le zyklon B, c'était des granulés de cristaux imprégnés de cyanure. La chaleur humaine provoquait le dégagement du gaz. Les juifs respiraient, ainsi ils s'empoisonnaient. Le gaz influait sur le système nerveux. Il provoquait le paralysie des muscles. À vrai dire, ils ne pouvaient plus respirer. Ils s'étouffaient. Mais tout ça durait un quart d'heure, 20 minutes. Ils souffraient énormément. Ils grimpaient les uns sur les autres pour être plus haut, pour respirer mieux. Mais c'était en vain. Les membres du Sonderkommando coupaient les cheveux, arrachaient les dents en or, enlevaient les bacs, les alliances. Comme les membres du Sonderkommando étaient les témoins oculaires du crime nazi, régulièrement, on les changeait, mais je veux dire, on les tuait et on a engagé d'autres. Der ganzer Beirat ist Heimat.
Er hat kein Breire, c'est keine Weire. Alban Perrin, y a-t-il eu néanmoins des cas de survivants des chambres à gaz?
Je pense à Joe Weissblatt, qui était un enfant du ghetto de Butch, qui a été déporté à Auschwitz en août 1944, au moment de la liquidation du ghetto de Butch, qui était le dernier grand ghetto de Pologne. Il est placé dans le camp des Tziganes. Un jour, d'après son témoignage, en l'absence de Mengele, un SS organise une sélection sauvage et ils sont un groupe d'hommes, enfin de femmes, d'enfants, à être conduits, sortis du camp des Tziganes, obligés de se déshabiller et conduits dans la chambre à gaz numéro 4. Et d'après son témoignage, Mengele, fou de colère, est arrivé, a fait sortir un petit groupe de personnes, dont lui, parce que l'autre SS n'avait pas organisé une sélection sauvage. Et donc, pour marquer son autorité, il a fait sortir un petit groupe. On n'a pas d'autres témoignages qui corroborent son propre récit, qui est certainement vrai, mais disons, pour pouvoir en parler de façon scientifique, il faudrait pouvoir corroborer ça avec d'autres rescapés qui auraient vécu la même chose le même jour. En tout cas, il y a ce témoignage-là.
Es is a klug, es is a zamin zure. Es is a klug, es helft nicht kein Geschrei, weil wir loger, mir zenen di kapure.
L'odeur. Tous les survivants témoignent de cette image olfactive omniprésente. Cette odeur, c'est celle qui provient des fours crématoires où les nazis faisaient disparaître les corps des victimes. Teresa vous fait entrer dans le premier crématoire mis en service par les nazis à Auschwitz 1.
Le seul crématoire du camp mère Auschwitz 1 a commencé à fonctionner en automne en 1940, donc la même année où on a fondé le camp. Mais au début, il était destiné à incinérer les corps des prisonniers décédés à la suite du travail, des maladies, de la faim ou fusillés par les gardiens. Et la première grande salle, c'était d'abord la morgue. Ici, là, on déposait les corps humains. Mais après la conférence avancée, quand les transports avec les juifs ont commencé à arriver ici, il n'y avait pas encore de chambre à gaz au camp de Birkenau. Donc cette morgue a été transformée en chambre à gaz. Et aujourd'hui, nous disons que c'était la première chambre à gaz du camp d'Auschwitz. On a percé les trous au plafond. Vous allez voir trois trous par lesquels on versait des granulés de cristaux de gaz du cyclone B. On faisait entrer ici entre 600 et 800 personnes à la fois. D'après la direction du camp, le rendement de ce crématoire n'était pas très grand. Et ici, il pouvait incinérer 340 corps humains par jour. Pour la direction du camp, c'était trop peu. Et quand les grands crématoires ont commencé à fonctionner au camp de Birkenau, on a arrêté le travail de celui-ci. C'était au mois de juillet en 1943. Et c'était une firme allemande, Topf, qui a équipé ce crématoire et tous les crématoires du camp de Birkenau. L'incinération durait 20 minutes, une demi-heure. La température de l'incinération, 1200 degrés. On récupérait les cendres humaines qui après étaient dispersées partout dans les champs, dans les rivières, dans des puits étangs. Souvent, les cendres humaines étaient utilisées comme engrais.
Als ich will wie Nächten, heint wieder nicht essen, geh ich also sich und klär mir und tracht. Geh ich also sich und klär mir und tracht. Wie Euflach ist dem Suten Spitzel, a Hund steht und grischet, a Tricken im Bein. Bald kommt der Zweite, Sei nehmen sich beißen, will einer dem Zweiten dem Bein herausreißen. Geh ich also sich und klär mir und tracht und geh ich also sich und klär mir und tracht.
Cette série d'émissions a été réalisée par les lycéens de première L et terminale L du lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume dans le cadre de l'option radio et en collaboration avec les enseignants de lettres et d'histoire.
Nous remercions pour leur initiative et leur soutien le mémorial de la Shoah à Paris, principalement Alban Perrin, ainsi que la région des Pays de la Loire dans le cadre de son programme sur l'éducation à la tolérance et à la paix.
Nos remerciements à Charles Zelti, Lucien Pellois, Charlotte Leprouveau, Myriam Soussan et toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette réalisation. Une reconnaissance particulière à Jacques Chénier pour l'apport de son expertise historique. Cette série radiophonique est une production fréquentiée 97.9 en Pays de Haute-Sarthe.